Même si j'ai la voix qui porte, elle ne portera certainement pas assez. Voilà, je me présente, donc je me représente, puisque Monsieur Dufour m'a déjà un petit peu présenté. Je m'appelle donc Fawzia Barrage, je suis la directrice de l'Institut libre de formation des maîtres, donc cet institut qui a pour but de former des maîtres d'école pour l'école primaire. J'ai été moi-même enseignante, effectivement, j'ai été institutrice, non pas dans le public, mais dans le privé hors contrat, et quelques années dans le privé sous contrat également, mais à l'étranger. Je m'appelle Fawzia parce que je suis libanaise d'origine, et donc j'ai enseigné pendant 11 ans au Liban, et puis ensuite pendant 17 ans en France, donc dans une école privée hors contrat. Et donc, ce que je me propose aujourd'hui de faire, c'est de partager cette expérience de 28 ans dans l'enseignement primaire, avec des enfants pour lesquels j'ai travaillé depuis la maternelle jusqu'au CM2. Donc, j'ai à peu près fait tous les niveaux, sauf le CP d'ailleurs. C'est la seule classe, malheureusement, que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer. Donc, je peux également citer à mon actif le fait que je suis le co-auteur du manuel de grammaire de la librairie des écoles, du manuel de grammaire de CM1, CM2, que j'ai co-écrit avec Madame Munzer. Et ce manuel de grammaire, je me suis basée effectivement sur mon expérience sur le terrain avec mes élèves et ce que j'ai fait avec eux pour mes cours de grammaire, notamment. Le message donc que je voudrais transmettre aujourd'hui part d'une expérience très personnelle, d'une expérience de terrain. J'ai la chance aujourd'hui de diriger l'Institut libre de formation des maîtres. Je suis donc passée de l'autre côté de la barrière et j'essaye, avec tous mes collègues et tous les intervenants de qualité que nous avons à l'ILFM, de former de bons maîtres d'école avec un niveau d'excellence académique et également de leur proposer une pluralité de méthodes qui sont moins classique peut-être, mais tout aussi utile pour l'enseignement dans leur classe. Bon, l'école primaire, vous le savez tous, dure 6 ans après la maternelle. Donc nous avons la classe de CP, nous avons la grande section, puis le CP, puis pour le cours élémentaire, le CE1 et le CE2, et enfin le CM1 et le CM2 pour le cours moyen. Et comme le disait Monsieur Dufour tout à l'heure, l'école aujourd'hui ne transmet plus ce que nous aimerions effectivement qu'elle transmette. Elle s'est substituée aux parents en matière d'éducation et elle a oublié sa mission première qui est la transmission de connaissances, qui est l'instruction. Ce que nous désirons dans une école, c'est instruire les enfants qui nous sont confiés par leurs parents. Et nous avons cette mission de les élever. Quand je dis les élever, c'est-à-dire les élever non pas dans le sens de l'éducation, mais les élever dans le sens de la connaissance, dans le sens de l'instruction également. L'école primaire est absolument primordiale parce que c'est elle la base de tout le reste de la scolarité d'un enfant. Si un enfant est mal préparé à l'école primaire, sa scolarité entière va être complètement dépendante de cette non-préparation ou de cette mauvaise préparation. Et voilà, ce qui nous donnera effectivement des résultats absolument catastrophiques si nous nous accordons à écouter, à voir tous les constats aujourd'hui. Donc l'école primaire doit absolument se concentrer sur l'essentiel afin de forger cette assise solide, un vrai fondement justement, qui va donner aux élèves les bases sur lesquelles s'appuyer durant toute leur scolarité et durant même toute leur vie, je pense. Aujourd'hui, les enseignants sont pour la plupart peu formés, mal formés, quelquefois aussi tenus de ménager leurs élèves dans les classes, en ne les chargeant surtout pas de connaissances, parce qu'il faut leur permettre de construire leur savoir, car ils en sont prétendument capables de construire leur savoir. Or, ce que nous attendons d'un maître d'école ou d'un professeur ou d'un enseignant ou d'un instituteur, on lui donnera le nom que l'on voudra, mais cette personne qui est la personne référente dans une classe n'est pas supposée aider les enfants, être simplement un organisateur de tâches. Elle est supposée, effectivement, cet enseignant est supposé transmettre son savoir à lui, et le mot transmettre dit bien ce qu'il entend, c'est-à-dire faire passer ce savoir, faire passer cette connaissance, faire passer cette instruction qu'il a lui-même reçue. Ces enseignants qui perdent l'espoir aussi, puisque, comme vous le disiez aussi, Monsieur Dufour, ils ne prennent plus la parole, ils sont tellement écrasés qu'ils n'essayent plus de faire quelque chose, sauf pour certains, parce que je ne pense pas qu'il faille aussi être complètement pessimiste quant à l'école, parce que je pense vraiment, réellement, que nous pouvons sauver l'école encore. Nous pouvons vraiment sauver l'école. Il y a énormément d'initiatives, il y a beaucoup de maîtres d'école, que ce soit dans le public, dans le sous-contrat ou dans le hors-contrat, qui résistent, un peu comme ces irréductibles Gaulois de chez Astérix. Ce sont les résistants, ils sont un petit peu silencieux, mais ils résistent dans leur coin. Et ils résistent malgré des difficultés certaines, des difficultés réelles sur le terrain, vis-à-vis de leurs collègues, vis-à-vis de leur direction, quelquefois, qui les briment ou qui cherchent par tous les moyens de les faire taire, finalement. Et ces résistants, ces fameux irréductibles, ce sont tous les maîtres qui, eux, ont décidé de continuer à travailler de façon structurée, de façon progressive, de façon à transmettre des vraies connaissances et non plus des savoir-faire et des savoir-être comme ce que l'on nous martèle aujourd'hui. Il y a des réformes. Beaucoup de réformes, elles sont toutes insensées, incohérentes, elles viennent les unes après les autres à un rythme assez effarant qui contribue encore au malaise général. Et ces irréductibles, justement, qui travaillent un petit peu à la manière des hussards de la République, tout en s'inscrivant dans notre époque, c'est-à-dire en profitant quand même de tout l'apport des neurosciences, par exemple, de tout ce que nous avons appris aujourd'hui de la modernité, et qui nous permet, dans les classes, d'aider les enfants, d'aider tous les enfants qui nous sont confiés, à progresser, chacun à son rythme, avec ses capacités, mais les aider réellement et non plus laisser complètement tomber pour faire travailler uniquement des matières qui sont totalement périphériques, comme on dit. Alors, peut-on encore sauver cette école de la faillite établie ? Peut-on inverser le cours des choses ? Et que faut-il absolument transmettre ? Quels sont ces fameux fondamentaux dont nous parlons ? Nous pouvons effectivement se pencher sur ce que nous pouvons encore réaliser grâce effectivement à l'initiative de beaucoup, beaucoup de maîtres d'école, de beaucoup de personnes, rien que les personnes qui sont présentes dans la salle aujourd'hui. Je pense que tout le monde est investi de cette mission et se sent est conscient de l'importance de cette mission qui nous est confiée, qui est de transmettre effectivement des connaissances et de sauver les enfants. Il y a eu une génération entière qui a été sans doute sacrifiée à partir du CP, puisque nous avons beaucoup d'enfants qui ont appris à lire avec la méthode globale ou la méthode semi-globale. Ces enfants, ce sont des enfants qui rencontrent aujourd'hui de grandes difficultés. Et ces grandes difficultés sont très difficiles à gérer, très difficiles aussi à guérir, puisque c'est quelque part, c'est vraiment une maladie dont ils sont atteints et qu'il est difficile vraiment de gérer aujourd'hui. Donc la première des choses qu'il faudra que nous ayons en tête, c'est effectivement l'abandon. Abandonnons ces méthodes globales, ces méthodes semi-globales qui ont fait des ravages, qui continuent à faire des ravages encore aujourd'hui, qui ont laissé une marque quasi indélébile chez certains enfants. Je ne dis pas que tous les enfants ont gardé des traces indélébiles à cause de la méthode globale, mais il y en a beaucoup, ils sont nombreux, ceux qui ont souffert de ces méthodes. Donc reprenons, comme nos parents l'ont fait avant nous, comme nos aïeux l'ont fait avant nous, nos grands-parents, qui ont appris avec une méthode syllabique, une méthode combinatoire, on l'appelle syllabique ou combinatoire, ou avec le B à bas, comme nous avons, pour beaucoup d'entre nous, appris à lire et à écrire également avec cette méthode. C'est la première des choses sur laquelle il faudra vraiment insister et se baser. Dans les écoles, il faut bannir la méthode globale. c'est terminé. Il faut vraiment s'appliquer à travailler avec la méthode syllabique pour apprendre à lire et à écrire aux enfants. Il faut que l'apprentissage soit structuré, il faut que l'apprentissage soit progressif. On part du plus simple au plus complexe. C'est exactement ce que le B-A-B-A signifie. Alors nous avons pléthore de méthodes syllabiques. Si nous prenons la méthode, l'ancienne méthode Baucher, qui fonctionne extrêmement bien, nous avons la méthode Delisle, nous avons la méthode à petits pas de Ligier, si vous connaissez cette méthode, qui est une ancienne méthode, oui. Ligier. Ah, la méthode Delisle. D-E-L-I-L-E. Voilà. D-E-L-I-L-E, la méthode Delisle. Vous avez la méthode d'Elisabeth Nuitz. Vous avez plus récente la méthode de la librairie des écoles, qui est un peu inspirée de la méthode Baucher. Vous avez la méthode de Wechtenbadour pour apprendre à lire à vos enfants à la maison. Pour ne citer que celle-ci, il y en a beaucoup d'autres, certainement, que je n'ai pas citées aujourd'hui. Mais avec ces méthodes-là, il y a vraiment une possibilité d'apprendre à lire correctement et à écrire correctement. J'insiste sur le lire-écrire parce qu'on apprend à lire en même temps qu'on apprend à écrire. Ces méthodes systématiques, donc, qui permettent aux élèves de reconnaître par discrimination auditive ou visuelle, c'est-à-dire qu'ils peuvent voir et entendre, à lire et à écrire les voyelles A, E, I, O, U, et à les associer par la suite avec des consonnes pour former des sons, ces sons qui vont former des syllabes, et les syllabes vont former les mots vont former la phrase, et voilà, on est parti vraiment de ce qui est le plus simple vers le plus complexe. C'est ainsi que se construit effectivement cette progression de méthode syllabique. Madame Nuitz, par exemple, recommande, lors de l'apprentissage de la lecture, de faire lire à haute voix, tous les jours un petit peu, des textes différents de ceux de l'école pour éviter que ne s'installe chez les enfants une lecture de simple reconnaissance. La simple reconnaissance d'un texte appris, parce que c'est souvent ce qui se passe. Lorsqu'on fait lire systématiquement la même phrase 15 fois à un enfant, il finit par la connaître par cœur et il ne va plus. On rejoint un petit peu la méthode globale à ce moment-là. La lecture ne s'apprend effectivement pas par cœur. Il faut lui faire faire de fréquents arrêts pour lui laisser le temps d'évoquer, des retours en arrière, pour discuter. Il faut faire travailler son raisonnement et à partir du texte. C'est ainsi que l'on va monter sa logique. Il ne faut pas aussi, dit-elle, imposer de lecture silencieuse. Cette lecture silencieuse viendra d'elle-même en son temps, en passant successivement de la lecture à voix basse, le murmure, la labialisation, c'est-à-dire simplement le mouvement des lèvres. Et c'est effectivement, si on reprend l'origine de la lecture, on ne lisait pas dans sa tête, on lisait à haute voix. C'était une lecture qui était sonore, une lecture que l'on entendait, effectivement. Et cette lecture sonore est importante. Et là, je fais une petite digression. J'ai travaillé avec des élèves en CM1, CM2 ou CE2, CE1. Et certains de mes élèves avaient besoin de murmurer ce qu'ils étaient en train de faire au moment où ils le faisaient. Leurs camarades se plaignaient en disant « Oh, il fait du bruit, il parle. » Je demandais à mes élèves de parler un petit peu moins fort, mais je les autorisais tout de même à sonoriser effectivement ce qu'ils étaient en train de faire parce que cela leur permettait une vraie réflexion en même temps que leur travail. En même temps que donc l'apprentissage de la lecture, il convient bien entendu d'apprendre simultanément l'apprentissage de l'écriture. Donc chacune des lettres, chacun des sons et chacune des syllabes apprises doit être écrite simultanément parce que le geste aide à la mémorisation. On dit, saint Thomas d'Aquin dit « Rien n'arrive à l'intelligence qui ne soit d'abord passé par les sens ». Et cette phrase prend tout son sens effectivement à l'école primaire. Pour que les enfants retiennent, pour que les enfants apprennent, il faut nécessairement que cet apprentissage passe par leur corps quelque part. Et donc, soit par le geste de la main, soit par une manipulation, et c'est absolument nécessaire. Donc, l'apprentissage de la lecture indissociable de l'apprentissage de l'écriture. Et il faut passer du temps sur ces deux apprentissages, pour bien arrimer ces connaissances, pour que la base pyramidale de la langue, de la lecture et de l'écriture soit la plus solide possible. Et c'est au CP, effectivement, cette classe charnière, que tout se met en place. C'est à ce niveau que la responsabilité des enseignants est peut-être une des plus importantes, car elle engage le reste du primaire, elle va ouvrir les horizons et elle va vraiment permettre aux enfants d'accéder à la linguistique, à tout ce qui est mémorisation par le biais de la reconnaissance visuelle. Toujours au niveau du CP, il conviendra de consacrer régulièrement du temps à la dictée de sons au départ, de lettres, puis des sons, et voilà, puis des syllabes, petit à petit, dictée de phrases. On arrivera tout à fait au CP à faire travailler les élèves avec de la dictée de phrases, avec des mots qu'ils ont appris, avec des syllabes qu'ils connaissent, qu'ils ont vraiment lus, écrits plusieurs fois. Et je préconise, enfin c'est vraiment à mon sens quelque chose de très important, au CP il faut faire lire régulièrement les enfants et pas uniquement une lecture collective, c'est-à-dire souvent au CP on fait lire toute la classe en même temps. Il faut absolument passer du temps avec chacun des élèves d'une classe pour le faire lire régulièrement tous les jours quelques phrases, mais seul et à haute voix pour qu'il entende le son de sa voix. Quelquefois, ce n'est pas possible, c'est un petit peu difficile de faire ceci parce que dans les classes, on n'a pas tout le temps le temps de faire passer les élèves régulièrement les uns après les autres. Dans certaines écoles, hors contrat, souvent, ce sont des mamans bénévoles qui viennent régulièrement, quotidiennement, pour faire lire les enfants les uns après les autres dans une classe. Et vraiment, pour l'avoir pas personnellement vécu, mais vécu dans l'école où j'ai travaillé, c'est ainsi que les enfants de la classe de CP arrivaient en fin de CP avec une lecture fluide. Ils y arrivaient pour la plupart d'entre eux, bien évidemment. Je ne réalise jamais assez. Pardon, ne généralise jamais. Alors, quant à l'écriture, il faut là aussi que passer du temps sur cette écriture parce qu'il faut effectivement qu'elle a été travaillée. On commence la préparation de l'écriture à partir de la maternelle avec tous les gestes, tous les petits exercices de motricité fine que l'on fait faire aux enfants de maternelle, c'est-à-dire les gestes qui paraissent les plus anodins qui soient, que ce soit du déchiquetage de feuilles ou du piquage ou de faire rouler des petits morceaux de papier entre les deux doigts, ou bien faire du collage, ou bien faire par la suite des graphismes qui vont permettre petit à petit de préparer à l'écriture avec les boucles, avec les lignes horizontales, les lignes verticales, les arceaux, etc. Et lorsque ces enfants arrivent au CP, il convient réellement de passer du temps avec chacun d'entre eux, là aussi, pour l'aider au geste de l'écriture, pour montrer la lettre qui monte, la lettre qui descend. Il y a pour cela beaucoup, beaucoup de petites techniques simples que les instituteurs de CP utilisent, c'est-à-dire faire écrire, par exemple, les enfants dans de la farine, faire le geste dans de la farine ou bien dans de la semoule, ou bien passer la main sur des lettres rugueuses. Là aussi, on passe par le corps de l'enfant pour imprimer quelque part cette lettre que l'enfant apprend petit à petit. Et en variant petit à petit les outils d'écriture jusqu'à l'usage du stylo-plume, dont je suis partisane, insister avec douceur auprès de ceux qui trouvent l'exercice un petit peu trop pénible, un petit peu trop fastidieux, leur proposer d'écrire de belles phrases peut-être, les récompenser, les encourager, insister doucement mais fermement pour leur apprendre ce geste de l'écriture qui est un geste important et qui va les accompagner tout au long de leur primaire et bien entendu par la suite également. L'exercice d'écriture ne se limite pas au CP. Nous avons parlé du CP parce que c'est la classe, effectivement, la classe charnière, la classe qui permet de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, de la langue, donc de la langue française. Mais cet exercice d'écriture ne doit pas se limiter au CP. Et on peut jusqu'en classe de CM2, jusque chez les plus grands, donc continuer à faire de l'écriture grâce à des exercices de copie qui soient hebdomadaires, quotidiens, selon le temps que le maître désire y consacrer, avec une exigence de soin, de calligraphie, en faisant bien prendre conscience du plaisir de la page soignée et bien écrite. Ces petits exercices de copie sont vraiment très bénéfiques puisqu'ils ont beaucoup d'objectifs, c'est-à-dire que grâce à ces petits exercices de copie, on va fréquenter les grands auteurs, les auteurs français, on va découvrir des textes, on va découvrir des styles, on va se recentrer, on va se calmer, on va apprendre à de nouveaux mots, on va enrichir son vocabulaire, on va travailler son orthographe également. C'est également, bien entendu, une première étape dans l'exercice de la rédaction qui va venir un petit peu plus tard. La langue française, donc, cet accès à la langue qui est si important, le français, pardon, comme langue lue, parlée et écrite. Il ne s'agit pas seulement de lire, pas seulement d'écrire, il y a également la parole, la prise de parole en classe. Et cette prise de parole, elle est, dès la maternelle, elle est contrôlée par le maître de la classe. Le maître ou l'instituteur va reprendre les enfants qui ont un défaut de prononciation, sans trop insister évidemment. Ils vont petit à petit leur apprendre à formuler leurs phrases correctement. Ils vont les reprendre lorsqu'ils vont s'exprimer de façon trop familière, trop courante. Ils vont leur donner eux-mêmes l'exemple en s'exprimant avec une langue de qualité dans la classe, puisque le maître est toujours le modèle de l'élève dans la classe. L'élève l'admire et il va faire en miroir ce que le maître fait. Et on va essayer de bannir en tant que maître, et là je reprends mon rôle de directrice de l'ILFM, on va bannir justement le langage courant, le langage familier que les enfants n'ont pas besoin d'entendre. Ils l'entendent trop souvent dans la rue, dans la cour, à la maison aussi. Ce que les maîtres doivent vraiment arriver à faire dans une classe, c'est contrôler leur parole, c'est exercer une parole de qualité, une parole vraiment riche, pour que les enfants, petit à petit, eux aussi, apprennent à s'exprimer de cette façon et comprennent que lorsqu'on est à l'école, lorsqu'on est en classe, on est dans un lieu un petit peu hors du monde. On ne fait pas rentrer l'extérieur, on est dans une espèce de bulle, dans une espèce de microcosme qui est un microcosme un peu sacré, où là, la parole est une belle parole, est une parole de qualité, où le maître s'exprime de façon extrêmement claire, précise, et avec des mots choisis chaque fois. Si je repars aussi sur la lecture, je parle beaucoup du français parce que à mon sens, c'est vraiment la matière qu'il faut absolument, absolument travailler davantage. Les cours de français sont de moins en moins importants au niveau des emplois du temps d'aujourd'hui. Et c'est grâce à cette langue que l'on va avoir accès au monde. Il faut absolument que les enfants maîtrise cette langue, se l'approprie totalement, en goûte les saveurs, parce que la langue française est une belle langue, c'est une langue riche, c'est une langue difficile, certes, mais on peut tout à fait, dans une classe, transmettre cette beauté de la langue et apprendre aux enfants leur faire sentir, effectivement, toutes les subtilités, toutes les nuances que la langue française peut apporter. Et le maître va donc guider l'élève, il va orienter sa façon de lire, il va donner lui-même le ton afin de donner le goût de la lecture, des mots expressifs, des phrases bien tournées, et ceci en proposant des textes de qualité. Et notre patrimoine de littérature française est extrêmement riche pour que nous choisissions dans ce patrimoine de bonnes lectures pour les élèves d'une classe. Il convient d'être vigilant tant sur le fond que sur la forme des lectures ou des textes que nous choisirons dans une classe, que ce soit pour la lecture, que ce soit pour la copie, que ce soit pour la dictée. Il faut que ces textes soient des textes issus de notre patrimoine littéraire, qui est absolument riche. On peut en citer beaucoup, Anatole France, Alphonse Daudet, Marcel Aimé, Maurice Genevoix, pour n'en citer que quelques-uns, et évidemment, ce n'est évidemment pas du tout... Alors pour ceci, je vous conseille ce petit livre qui a été édité par la librairie des écoles, la Fondation pour l'école, qui s'appelle « Une bibliothèque idéale, que lire ?» de 5 à 11 ans, et écrit par Madame Anne-Laure Blanc, et qui a un petit peu répertorié de nombreuses lectures françaises ou pas, mais de bonnes lectures pour les enfants, des lectures qui ont été vraiment qu'elle a regardées avec vigilance et attention, et qu'elle conseille donc pour la lecture. Cette incitation à la lecture me semble primordiale parce que elle amène une capacité certaine à mieux s'exprimer, donc tant à l'oral qu'à l'écrit. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. C'est vrai que le temps qui m'est imparti ne me permettra certainement pas d'aller au fond des choses et de pouvoir vous dire tout ce que j'ai envie de dire, mais je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc, on a parlé de la langue. La langue est extrêmement importante également pour les mathématiques. On y reviendra tout à l'heure, je voudrais juste m'arrêter quelques minutes sur l'apprentissage de la grammaire. l'apprentissage de la conjugaison et de la grammaire. La grammaire qui est largement réduite, enfin qui a été vraiment très très réduite. Je voudrais parler également de l'apprentissage par cœur, je voudrais parler des poésies que l'on apprend dans une classe. Je n'aurai certainement pas le temps de vous parler de tout cela, mais je pourrai sans doute vous communiquer par la suite mon texte, et puis vous aurez un petit peu tout ce que j'aurais voulu dire. Alors, la grammaire, je retrouve la partie de ma grammaire, voilà. De moins en moins transmise donc dans les classes, alors que cette matière permet aux élèves justement de bien comprendre la structure et la syntaxe de notre langue et développe une aptitude au raisonnement. C'est de la logique, la grammaire. Et la grammaire, on peut tout à fait la faire aimer dans une classe. Ce n'est pas une matière aride, c'est une matière vivante, c'est une matière où les mots, c'est une chanson douce, comme disait Eric Orsenna, c'est une chanson douce lorsqu'on sait la transmettre. J'ai beaucoup aimé transmettre la grammaire dans ma classe, dans mes classes, et mes élèves y trouvaient vraiment plaisir parce qu'ils avaient, le jour où ils avaient compris le sens de cette grammaire, le lien qu'il y avait entre les mots dans une phrase. Pourquoi ces mots étaient-ils agencés de telle ou telle façon dans une phrase et comment l'on pouvait justement les agencer d'une façon différente? Comment ce mot pouvait passer d'un côté de la phrase à l'autre en ne changeant pas vraiment le sens de la phrase, mais en donnant une tournure syntaxique plus agréable. C'est un outil de base, donc, au service du langage et de tous les autres domaines de la connaissance. La relation entre les mots d'une phrase permettant d'accéder au sens, l'élève apprend donc à organiser lui aussi sa propre parole, à comprendre celle des autres, et il va par la suite pouvoir enchaîner ses idées dans un ordre logique qui sera l'expression d'une pensée cohérente. C'est évidemment, ceci s'applique évidemment à l'écriture également, parce que c'est ainsi que l'on va commencer à inciter les enfants à écrire, à rédiger, en commençant par une des phrases simples, avec un sujet, un verbe, un complément, ou alors juste un sujet et un verbe. Et ensuite, on va petit à petit enrichir ces phrases avec davantage de compléments, avec davantage de d'adverbes, avec des adjectifs, avec des mots expressifs, avec voilà. Si l'on réussit à faire passer cette relation entre donc les différents termes de notre langue, si on réussit à faire passer le sens de la grammaire aux élèves, je pense qu'on a réussi une grande partie de notre devoir face aux élèves. Je passe un petit peu rapidement dessus, mais je voudrais aussi parler, bien évidemment, de la dictée et de l'orthographe. On ne fait plus de dictée dans les classes. Quel dommage. Pour que l'orthographe devienne plus naturelle, il faut évidemment beaucoup lire. Il faut regarder les mots quand on les lit, parce que l'orthographe n'est pas innée. Les mots ne s'écrivent pas comme ils s'entendent. Les enfants, quand ils commencent à écrire, vont écrire d'une façon un petit peu phonétique, avec ce qu'ils ont entendu comme son, comme syllabe. Mais il faut vous les inciter à regarder les mots, à se délecter de ces mots, parce que ils sont beaux, ces mots. Il faut apprendre justement aux enfants à aimer les mots de la langue française et à aimer même la difficulté de la langue française, parce qu'elle est difficile, cette langue. Elle est difficile à expliquer quelquefois. On peut l'expliquer grâce à l'étymologie, grâce aux racines des mots, à la terminaison de certains mots lorsqu'on les fait passer au féminin pour pouvoir retrouver la terminaison. Mais quelquefois, on est dans l'incapacité de leur expliquer pourquoi tel ou tel mot s'écrit de telle ou telle façon. Alors il faut le métier de maître d'école, c'est effectivement faire passer cette passion des mots, faire passer cet amour des mots aux enfants grâce, entre autres, aux dictées. Alors faire des dictées, il ne faut pas que ce soit rébarbatif, on peut en faire une par jour sans qu'elle ne soit trop longue. Et puis autoriser les élèves qui ont plus de difficultés que d'autres à ne faire que deux ou phrases de cette dictée. Cela n'est pas perçu comme une injustice dans une classe, je le sais, puisque je l'ai pratiqué très longtemps. Au contraire, cela peut inciter les élèves les plus faibles à travailler davantage, puisqu'ils sont encouragés par leurs camarades et par le professeur lorsqu'ils ont réussi à faire un petit peu moins de fautes, à avoir un demi-point de plus lorsqu'ils sont notés. Donc cette dictée-là, je me souviens pour ma part que dans ma classe, nous faisions une dictée tous les jours, nous numérotions les dictées à partir de la première de l'année, et à la centième dictée de l'année, nous faisions une grande fête dans la classe et nous fêtions notre 100e dictée. Et même les élèves qui avaient des difficultés en orthographe étaient vraiment étaient ravis finalement, et ils comptaient en disant nous sommes arrivés à la 90e, ce sera bientôt, etc. Donc c'était vraiment un événement dans la classe que de fêter la 100e dictée. Nous invitions toutes les autres classes à partager les gâteaux que les enfants avaient faits. Et donc il faut effectivement donner aussi ce goût de l'orthographe. Je n'ai presque plus de temps, je pense. Le calcul et la géométrie. Je voudrais juste dire quelque chose, c'est que là aussi, en calcul, en géométrie, l'apprentissage du nombre doit passer également par le corps de l'enfant. Il faut que l'enfant entre, comme dit Laurent Laforgue, il faut que l'enfant entre en intimité avec le nombre. Il faut que les quatre opérations soient dès le CP installées. Même avec des nombres simples, même avec des nombres qui ne sont formés que d'un seul chiffre, on peut faire des additions, des soustractions, des multiplications et des additions dès le CP. C'est ce qui se faisait il y a 50 ans, il y a 60 ans. Et on peut encore le faire. Les enfants plus on leur donne, plus ils reçoivent et plus ils sont capables de donner. Et il est faux de penser que en leur donnant peu, on les satisfait, on les nourrit. J'ai travaillé dans plusieurs écoles, ces écoles étaient exigeantes, c'était des écoles qui prenaient l'excellence. N'ayons pas peur des mots, il faut pas avoir peur de dire prenez l'excellence, même quand l'on sait que dans une classe, il n'y a pas que des enfants excellents, il y a des enfants qui rencontrent des difficultés, mais on peut arriver à tous les élever et les aider à progresser. Donc nous prenions l'excellence dans cette école et nous arrivions effectivement à faire travailler les enfants énormément, mais ils étaient heureux, ils étaient épanouis, ils n'étaient pas du tout brimés, ils ne se sentaient pas gavés, mais ils étaient vraiment réellement heureux. Et un enfant que l'on nourrit est un enfant épanoui, un enfant heureux. Lorsqu'il sait qu'il est capable d'aller plus loin, qu'il est capable d'apprendre encore plus, il est heureux. Il faut oublier, il faut pas se dire que oui, on n'a pas besoin de leur donner plus, ils sont fatigués aujourd'hui, les pauvres chéris, on va les laisser tranquilles, etc. Cela arrive dans la classe, évidemment, il y a des jours où il faut forcément un petit peu s'arrêter. Vous me dites, monsieur Dufour. Très bien, entendu. Voilà. Alors pour conclure, je vais effectivement conclure, je vous transférerai mon texte. Pour conclure, je pense qu'il faut rajouter des heures de français dans la classe, en faisant davantage de lecture, de copie, d'écriture, de grammaire, de conjugaison, de rédaction. Il faut également travailler sur le calcul.